demande combien de temps cet oiseau mettrait-il pour traverser de là où elle se trouve, l'autre côté de cette mer, pour te rejoindre sans un battement d'aile.
Chronique à l'échelle. Par Leïla Deradji.
Proche de Marseille vers Alger.
Quatrième chronique à l'échelle, aujourd'hui au MUCEM, autour de l'exposition de Pierre Bourdieu, intitulée « Photographie d'Algérie », toujours en compagnie de Leïla Deradji, toujours journaliste, productrice, animatrice d'émissions en Algérie, sur la chaîne 3. Et aujourd'hui, on reçoit Éric Gudimard, qui a participé avec les bancs publics et en association avec les rencontres d'Averroès au montage de cette exposition autour des photographies de Pierre Bourdieu. Éric, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, on va, si tu veux bien, Leïla, commencer cette visite.
Oui, tout à fait. Alors, bonjour, Éric Gudimard. Vous êtes photographe vous-même, vous êtes galériste, vous avez une galerie d'art au Vieux Quartier, au Panier. Et voilà, nous allons faire cette visite avec vous. Vous l'avez conçue, vous l'avez chapitrée, vous l'avez structurée.
Alors en fait, on a suivi les instructions entre guillemets qu'avait laissé Pierre Bourdieu aux deux commissaires qui ont monté le projet d'exposition en 2000, au début des années 2000 avec lui, qui sont Christine Frisingeli et Franz Schultes. Franz Schultes était sociologue et ami de Pierre Bourdieu. C'est lui qui l'a poussé à montrer ces images, enfin en faire quelque chose. Et c'est Camera Austria, représentée par Christine Frisingeli, qui a assuré le montage et la production et le commissariat initial.
D'accord, mais cette expo, elle a été déjà montrée, je crois, à l'Institut du Monde Arabe, mais peut-être pas dans sa totalité.
Voilà, c'est ça, c'est la première fois qu'elle est montrée en France, en tout cas qu'elle est montrée dans sa totalité, c'est-à-dire dans la totalité de la sélection finale qu'avait fait Pierre Bourdieu sur le corpus d'images qu'il avait à la base. C'est le choix qu'il a fait avec Franz Schultes et Christine Frisingeli sur une base en fait très simple et un peu surprenante, c'est qu'ils n'ont gardé que les photographies qu'ils étaient sûrs de pouvoir référencer.
D'accord.
C'est-à-dire dont ils connaissaient le lieu, la date et les circonstances de la prise de vue.
La visite commence là. Alors, nous allons voir cette photographie. On rappelle que Pierre Bourdieu est arrivé dans les années en 58. Il a enseigné la philosophie, d'abord à la faculté d'Alger, et ensuite la sociologie s'est quand même posée à lui, vu la situation que vivait le pays. C'était au début de la guerre de libération, enfin la guerre, oui, on appelle ça la guerre libération, mais là, la guerre d'Algérie. Bref, et donc c'est très marqué par une période qui était pas mal, dont les structures ont été bouleversées, et la misère vue d'une façon criarde, et les transformations sociaux, politiques.
Ah oui, Pierre Bourdieu avait déjà fait un séjour en 55, je crois, oui. En tant qu'appelé du contingent. Il est revenu effectivement pour enseigner à la fac d'Alger en 58. Et assez rapidement, il s'est mis à photographier. Lors d'un débat qu'on a eu récemment, il y a quelqu'un qui a dit que Pierre Bourdieu n'était pas photographe, mais qu'il avait besoin de la photographie. C'est exactement ça. En fait, il en a eu un. C'était un besoin assez vital, d'ailleurs, je pense, pour répondre à la réalité qui était en face de lui, à la situation politique dont vous parliez. Donc l'exposition commence en fait là où on veut bien qu'elle commence, hein. Elle est chapitrée, les photographies sont regroupées en 8 groupes, mais c'est pas un parcours obligatoire. Donc on peut commencer à droite comme à gauche, et après refaire le chemin par soi-même.
Tracé.
Il y en a un,
oui.
Mais il n'est pas tracé obligatoire. On peut circuler aussi librement.
Alors on
va le faire dans l'ordre. Si vous voulez,
mais il y a combien de photos?
Il y a 150 photos.
150 photos.
Il y a 150 cadres, ouais. Exactement, parce qu'on a commis une petite erreur. Il y a 150 cadres et 147 photographies. Puisqu'il y a aussi des photographie de carnet de notes de Pierre Bourdieu dans l'exposition. Ces chapitres ont été faits a posteriori, en cherchant des liens avec la pensée sociologique de Pierre Bourdieu et comment faire, entre guillemets, raccord entre une pensée sociologique que je ne vais pas définir moi parce que je ne suis pas sociologue, mais qui joue beaucoup sur les rapports et sur les relations, et une pratique de photographique qui, justement, travaille sur le même domaine, mais visuellement. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une photographie au hasard, il y a la première de l'exposition, qui est censée être la numéro 1. Il y a un monument français à la gloire de je ne sais quel militaire, d'ailleurs, parce qu'on n'arrive pas forcément à lire.
On n'arrive pas à le voir, moi aussi j'ai essayé de voir.
Non, je pense que c'est un monument aux morts, comme il en existe assez couramment en France, d'ailleurs, aux morts peut-être de la guerre de 14. Pas. Et il y a, quand on parle de rapport et de mise en... En relation, c'est qu'il y a deux jeunes qui passent de manière assez rapide et floue sur la droite, deux jeunes Algériens sur une moto, et une femme algérienne qui passe devant le monument aux morts et qui l'ignore. Donc il y en a une qui s'éloigne, les deux en tout cas, personnages s'éloignent du centre de la photographie, qui est le monument aux morts des guerres françaises, et éventuellement avec les populations autochtones d'ailleurs, mais en tout cas... qui représente l'État d'une certaine manière, le pouvoir, enfin des symboles qu'on retrouve partout, par ailleurs sur le territoire français, mais qui là ont une fonction un petit peu différente compte tenu du contexte.
On est dans une autre relation oppresseur-oppressé, donc il y a une espèce de résistance qui passe aussi par l'ignorance de ces symboles que... On commençait déjà à ce moment-là à combattre. Bon, alors on peut continuer largement.
On est en 59.
On est en 59. De Gaulle. Alors ça c'est très c'est très parlant.
J'ai déchiffré un petit peu parce que il me semble qu'il y a un A qui est tout petit d'ailleurs. Parce que si on dit oui De Gaulle. Tant que tel, ça ne veut pas dire grand-chose, mais oui à De Gaulle, le sens commence à changer.
Oui, c'est oui à De Gaulle, c'était certainement par rapport au référendum qu'il y a eu que De Gaulle. Oui, c'est une période
alors là,
qui
on
me
est
parle.
Dans une, juste pour préciser, on est dans ce premier chapitre qui s'appelle « Guerre et mutation sociale ». Donc on est à la fois sur un contexte politique et à la fois sur un contexte social. Et c'est le rapport entre les deux qui est intéressant pour Pierre Bourdieu à ce moment-là. Il y a un petit garçon des quartiers pauvres et des palmiers derrière qui font un petit peu penser à, pour nous aujourd'hui à quelque chose de plus exotique. Et puis une cité qui pourrait être à Montolivet par exemple, à Marseille, où on a construit à peu près le genre de même chose, architecturalement parlant.
On continue. Alors là, on n'arrive pas trop à définir, sauf que évidemment c'est ça qui est mis en avant. Respecter le gouvernement, les tueurs vous guettent. Ensuite, on a Vive le GPRA, tout de suite qui vient après.
C'est d'ailleurs une série entière qui est consacrée, qui est légendée sur
c'est le
du GPRA.
GPRA, c'est le gouvernement provisoire
de la République algérienne.
Oui, alors là, il y a des petits garçons. Si bon, les photos sont en noir et blanc, on ne va pas parler d'esthétique, c'est de très belles photos. Bourdieu, c'était pas photographe au sens classique du terme, mais les photos sont belles. Esthétiquement, elles sont belles aussi.
Sont surtout bien cadrées.
C'est peut-être ça.
C'est peut-être une définition d'une belle photographie. Oui. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une image. Enfin, c'est une idée relativement commune. Mais là, elles sont bien cadrées dans le sens où le cadre sert le propos. C'est dans ce sens-là. Si j'ose dire que le mot bien cadré s'applique. C'est pas bien cadré pour faire joli, c'est bien cadré pour produire du sens et pour mettre des éléments en comparaison.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une démarche scientifique dans ces photographies ?
Il n'y a pas une démarche scientifique est préétablie. La démarche scientifique est en train de se faire. Il tâtonne. En fait, il tâtonne avec des intuitions géniales, certes, mais il tâtonne quand même, il cherche. Il se sert de la photographie pour arriver à construire sa pensée. Donc la photographie, là, n'est pas le résultat d'une démarche scientifique, mais ça a été un moyen pour construire la pensée ultérieurement, pour l'affirmer, pour la...
On rappelle à l'occasion que Pierre Bourdieu est un des fondateurs de la sociologie.
Oui, enfin, fondateur, je ne sais pas, en tout cas de la sociologie moderne, puisque lui était même, avait subi l'enseignement universitaire classique, et là il s'est confronté au terrain, et c'est le terrain qui lui a renvoyé une réalité qui sortait un petit peu de son cadre de compréhension habituel. Donc il fallait jouer avec les deux. Il fallait jouer avec une certaine rigueur scientifique, et puis avec une réalité violente, très violente ici, Et c'est l'accord des deux via la pratique de la photographie, via l'utilisation de l'appareil photographique comme moyen de dialogue aussi et de communication avec les personnes qui a fait qu'il a pu.
Je pense qu'il aurait
évoluer.
Aujourd'hui la caméra, il aurait utilisé une caméra. Mais c'était un support qui venait. Et là, donc.
La caméra, elle induit aussi, et même l'appareil photographique, elle induit un rapport parfois tronqué parce que c'est une expérience qu'on fait souvent dans n'importe quel lieu. Quand on arrive avec une caméra, etc., il y a toujours l'image télévisuelle qui est derrière, qui pollue le rapport. Là, il n'arrive pas avec un appareil photographique 24-36 traditionnel qui va coller à son œil pour viser. Il a un appareil en bandoulière, collé au ventre, qui est un appareil 6-6 assez connu, Icoflex, Rolleiflex, avec une très belle lentille. Donc, il fait des photos de qualité, mais aussi, il est dans un rapport comme vous et moi, là, actuellement, en train de parler. Et aussi avec un moyen d'enregistrement qui permet de continuer de discuter comme avec Xavier là. D'accord. Il a son micro, mais je peux quand même le regarder, lui parler. Donc en fait, c'est un rapport convivial, entre guillemets en tout cas, relationnel, qui est complètement différent de celui d'un reporter avec son viseur. Le mot d'ailleurs est assez terrible, viser quelqu'un. Et donc ça c'est très important dans son approche et ça lui a permis d'entrer en relation avec des milieux auxquels il n'aurait peut-être pas pu accéder aussi facilement, et d'être invité sur certaines scènes, sur certains moments, des moments de communs des populations, des communs de vie auxquels lui, européen, n'aurait pas pu venir.
Comment est-ce que tu perçois ces images, toi, Leïla, comme des images qui font partie de ton histoire ou comme un regard extérieur sur cette histoire ?
Non, ça fait totalement partie de mon histoire. Je suis en milieu, en terrain connu. C'est des images qui me parlent, bien sûr. Je connais très bien, je sais de quoi il s'agit, mais le regard d'une personne comme Bourdieu est intéressant à plusieurs titres. C'est pas un regard exotique, à part il y a une photo, mais enfin on en parlera. Et là, ça, la photo qu'on voit là, ce sont des jeunes, des hommes qui sont regroupés autour de... Ils boivent du café, ils ont une bouteille d'alcool. Et donc, ça voulait dire qu'à ce moment-là, même, il y avait une espèce de pas de tolérance, mais de liberté, quand même dans cette situation-là. De quoi il s'agit, là ? C'est un moment de vie, un instantané, mais il y a des enfants qui regardent l'objectif quand même. Il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants. Il a photographié peu de femmes, parce que les femmes, c'était difficile de photographier, parce qu'elles étaient voilées, il a tout un discours à partir du voile, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus intéressant, c'était le regard d'un sociologue. Voilà, alors on continue.
Pour rebondir, vous parliez de regard de Pierre Bourdieu en tant que photographe. Ce regard-là, il n'existe pas réellement, en fait. C'est ça qu'il faut voir, c'est un regard qui se cherche. Et il n'a pas une idée préconçue de ce qu'il va photographier ou de ce qu'il va vouloir dire. C'est ce qui laisse les choses extrêmement ouvertes aujourd'hui dans la lecture que l'on en fait, d'une part, et puis ça délivre pas un message préétabli. Donc on a passé une séquence qui s'appelle Habitus Habitat. Habitus étant quelque chose qui est un peu une invention de Bourdieu à ce moment-là. La vie sociale, le lien social, on dirait peut-être aujourd'hui, les relations, etc. Et les conditions de vie, notamment on a toute une partie à droite de l'exposition sur les baraquements, les déplacements de personnes pendant la guerre d'Algérie.
Pendant la guerre d'Algérie, la guerre de libération, ils sont...
Il faut qu'on se parle.
On se parle, c'est ça l'essentiel. On appelle les choses un peu différemment selon notre vécu.
D'accord. Je suis bien d'accord.
Tout à fait. Alors là, on est à Oued Fodda, qui est en Kabylie. Et on parlait tout à l'heure de regroupement, effectivement, au moment où la population a été regroupée, les années 58, la population a été regroupée, et il y avait une structure administrative militaire pour pouvoir les contrôles sur la population et les agissements, parce qu'à ce moment-là, il y avait les combattants, les résistants qui arrivaient sur ces
lieux. Là, par contre, c'était un vrai sujet d'étude pour Bourdieu, le rapport entre l'organisation à la fois coloniale et comment la guerre en fait rendait très visible cette organisation-là très très mécanique en fait, très logique au
pire sens du terme. Et concentrationnaire et répressive. Alors là, je pense qu'on est en Kabylie.
Oui. Et il y a aussi de très beaux, on peut appeler ça des portraits,
c'est-à-dire oui.
deux ou trois, c'est des vrais portraits, c'est-à-dire au sens où la personne qui est photographiée est consciente d'être photographiée, c'est pas quelque chose de volé, c'est un instant partagé, notamment ce portrait de famille, avec un remplissage du cadre oui. là, total, et aussi rendu possible par la prise de vue ventrale, parce que l'axe de prise de vue est au niveau des enfants, au niveau de la poitrine des enfants, il est relativement bas. On n'aurait pas du tout le même cadre si on photographiait à hauteur d'yeux. Donc ça, c'est aussi intéressant à noter parce que ça compose l'image de manière très spécifique.
Au-delà des portraits de ces personnes que Bourdieu nous montre, tout autour des éléments de décor d'une Algérie qu'on dirait plutôt rurale, vernaculaire, très peu d'images des grandes villes en fait.
En fait, les huit chapitres dont on a parlé sont séparés en deux grandes parties. Une rurale qu'on est en train de parcourir et une urbaine. À partir du chapitre économie de la misère, où c'est le passage en fait entre la ruralité et le...
Donc nous allons nous diriger vers, ouais. vers la ville.
Alors la ville est à l'opposé.
Oui, parce que...
Donc là on passe sur les paysans déracinés, qui est une thématique aussi assez forte, les métiers traditionnels, etc. Mais on y vient aussi sur les espaces urbains, ce qui est une sorte de non pas de catalogue, mais de regard sur... sur la ville.
La ruralité, puis après on arrive dans la ville, il y a tout un comportement, les codes qu'il faut s'approprier. Et quelquefois ça fait des passages assez compliqués pour ces gens qui sont à la base des paysans, qui sont devenus ouvriers, dans le meilleur des cas, ouvriers agricoles ou employés d'usine. Alors là aussi c'est des portraits, il y a beaucoup de portraits.
Il y a des portraits de gens qui passent, si j'ose ouais. dire, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Très peu de portraits conscients où la personne regarde l'appareil, se sait photographier. Par contre, Pierre Bourdieu avait une attitude très, très belle et très sensible par rapport au sujet, avec beaucoup de respect, beaucoup de voire d'affection, ce qui est un terme presque étonnant chez lui, puisque lui-même dit qu'il a presque peur de dire qu'il a de l'affection pour les gens qu'il photographie.
Oui, parce qu'on pourrait dire qu'il aurait de l'affection
on
pour la misère.
On pourrait dire que c'est de la sensiblerie,
oui.
etc. Alors
la misère. Pas ça, c'est un marché, enfin improvisé, avec... des chaussures, un peu des trucs de bric et de broc, quoi.
C'est grosso modo ce qu'on continue de voir sur des marchés aux puces un peu partout. C'est pas exactement ouais. les mêmes objets, mais c'est toujours d'actualité d'une certaine manière.
Toujours d'actualité, cette exposition autour des photographies de Pierre Bourdieu au Mucem. On laisse nos auditeurs le soin de découvrir les autres photographies de cette exposition. Peut-être juste un mot pour conclure, Leïla, ce que tu as ressenti de la globalité de cette exposition ?
Bon, pour ma part, oui, j'ai ressenti que c'est des choses qui me parlent, évidemment. Et en même temps, je suis ravie de l'avoir vue, puisqu'elle est passée à Alger, je n'ai pas eu malheureusement l'occasion de voir. Il faut rappeler que c'est
Jusqu'au 6 décembre, jusqu'au dimanche 6 décembre. C'est ouvert du mercredi au dimanche, de 13h à 18h, et c'est gratuit.
Et la programmation des rencontres à l'échelle continue. Julie Kretschmar nous a accompagnés pour cette visite avec ce soir une rencontre, probablement même plusieurs spectacles proposés. Julie, peut-être un mot sur la programmation d'aujourd'hui avec...
Avec Machin la hernie, mise en scène par Thomas Gonzalez, sur l'écriture de Sonny Laboutancy. Nous commençons la soirée à la Friche Belle de Mai, pour la prolonger au banc public, autour de la proposition de Aurélien Descluseaux, quelqu'un qui vient de la danse, du hip-hop, et qui a invité pour l'occasion une comédienne algérienne. Nous accueillerons samedi et dimanche Thierry Tchenyang, autour de l'écriture de Mustapha Ben Fodil, également à la Friche.
Voilà, et donc rendez-vous autour de cette exposition Pierre Bourdieu, Images d'Algérie, c'est au Mucem, juste à côté du Vieux-Port, à côté du Fort Saint-Jean. Et tout le reste de la programmation à venir de ces rencontres à l'échelle, vous pouvez la découvrir sur le site rencontresàl'échelle.com. A demain pour une nouvelle chronique à l'échelle, toujours rendez-vous à 15h30 avec Leïla Deradji.